Chapitre 3. 26 mai 2201. 5 heures se sont écoulées depuis qu'ont débuté dans Rama des événements extraordinaires. Nous étions réunis pour dîner d'un roast beef, de pommes de terre et de salade. Afin d'aiguiser notre appétit, nous donnons aux combinaisons chimiques que nous fournissent les Raméens des noms qui rappellent leurs qualités nutritives. Ainsi, les pommes de terre sont riches en glucides, le roast beef en protéines, etc. Quand nous entendîmes un étrange sifflement, nous interrompîmes notre repas et les hommes s'apprêtèrent à monter à la surface. Le chuintement se poursuivait et j'enveloppais Simone dans des couvertures, enfilais des vêtements chauds et suivis avec elle Michael et Richard. Hors du refuge, le son était presque assourdissant. Il provenait du sud, mais nous n'osions pas nous éloigner en pleine nuit. Ce fut quand nous vîmes d'étranges reflets sur les façades vitrées des tours environnantes que nous ne pûmes contenir plus longtemps notre curiosité. Nous nous dirigeâmes avec prudence vers la berge de l'île, où aucune construction ne nous dissimulerait la cuvette australe de Rama. À notre arrivée au bord de la mer cylindrique, le spectacle son et lumière avait déjà débuté. Des arcs multicolores dansaient de tous côtés et illuminaient les cornes imposantes de l'extrémité sud de la nef. Cela dura plus d'une heure, et même Simone était comme hypnotisée par les immenses rubans jaunes, bleus et rouges qui bondissaient d'un pic à l'autre et dessinaient des arcs-en-ciel dans les ténèbres. Quand tout s'interrompit soudain, nous regagnâmes notre abri à la lueur de nos lampes électriques. Après quelques minutes de marche, notre conversation animée fut interrompue par un ululement. Nous reconnûmes aussitôt le cri d'un avion, ces êtres qui nous avaient un an plus tôt aidés à fuir New York, et nous nous arrêtâmes. Nous n'avions pas vu ou entendu une seule de ces créatures depuis que nous étions revenus dans l'île pour informer les Raméens de l'approche des missiles nucléaires. Richard avait effectué depuis quelques incursions jusqu'à leur nid, mais ses appels étaient restés sans réponse. Un mois plus tôt, il avait déclaré que les aviens avaient dû quitter la ville, mais ce cri nous indiquait qu'il en restait au moins un. Nous n'eûmes pas le temps de décider s'il convenait d'envoyer l'un de nous en éclaireur, que nous entendîmes un autre son, trop proche pour notre tranquillité d'esprit. Par chance, les bruissements ne venaient pas de la direction de notre refuge, et je serrai Simone contre moi et me mis à courir. Ma hâte était si grande que je manquais percuter un immeuble dans l'obscurité. Michael atteignit le dernier notre abri, et j'avais entre-temps soulevé le couvercle et la grille de protection.
« Il y en a plusieurs !»
dit-il, le souffle court. Les bruits s'amplifiaient. Les octopodes nous cernaient. Richard dirigea le faisceau de sa lampe vers l'avenue de l'Est et nous vîmes approcher 2 grosses créatures noires. Nous allons habituellement nous coucher 2 ou 3 heures après avoir dîné, mais nous fîmes une exception. La débauche de lumière céleste, le cri de l'avien et la rencontre avec des octopodes avaient délié nos langues. Richard était convaincu qu'un événement important se produirait sous peu. Il nous rappela que la manœuvre destinée à placer Rama sur une trajectoire de collision avec la Terre avait été précédée de phénomènes identiques. À l'époque, tous les membres de l'expédition Newton avaient assimilé cela à un branle-bas de combat ou une alerte. Quel sens convenait-il de donner au spectacle éblouissant de ce soir? Se demandait-il. Michael était venu nous rejoindre dans Rama par la suite, et n'avait eu aucun contact avec les aviens et les octopodes. Ce qui venait de se passer le fascinait. Un seul regard lancé aux créatures à tentacules lui avait permis de comprendre ce que Richard et moi avions éprouvé dans leur antre l'année précédente.
« S'agit-il des êtres que nous appelons les Raméens ? »
demanda-t-il.
« Si oui, pourquoi les fuyons-nous ? Nous sommes à leur merci. »
Les octopodes sont de simples passagers, rétorqua Richard, au même titre que nous et que les aviens. Ces derniers sont pour moi une énigme. Leur espèce ne peut être astropérégrine. Alors comment sont-ils montés à bord? Appartiennent-ils à l'écosystème local? Je serrai instinctivement Simone contre moi. Il y avait tant de questions sans réponse. Un souvenir de ce pauvre docteur Takagishi, empaillé comme un espadon ou un tigre dans le musée des octopodes, me fit frissonner.
Si nous sommes des passagers, quelle est notre destination?
M'enquis-je posément. Richard soupira. Les résultats de mes calculs ne sont guère encourageants. Nous nous éloignons rapidement du soleil, mais notre vitesse est ridicule à l'échelle interstellaire. Si Rama conserve le même cap, nous sortirons de notre système en direction de l'étoile de Barnard, que nous atteindrons dans quelques milliers d'années.
Simone se mit à pleurer. Je priai les hommes de m'excuser et allai m'isoler dans la chambre de Michael pour donner à téter à ma fille pendant qu'ils analysaient les informations qui s'affichaient sur le grand écran pour tenter de déterminer ce qui se produirait ensuite. L'agitation de Simone me surprenait, car elle était d'ordinaire très paisible.
« Tu perçois nos peurs, pas vrai ?»
lui demandai-je. J'avais lu quelque part que les nourrissons captaient les émotions des adultes de leur entourage. Peut-être était-ce exact. Elle s'assoupit sur sa couverture, mais je ne pus en faire autant. Mon sixième sens m'informait que les événements de ce soir annonçait une transition vers une nouvelle phase de notre vie à bord de Rama. Les calculs de Richard démontrant que ce vaisseau allait entamer un voyage qui durerait des millénaires ne me rassuraient pas. Mon esprit regimbait à la perspective de vivre ainsi jusqu'à la fin de mes jours. Ce serait une existence bien morne pour ma fille, et je me surpris à adresser une prière à Dieu ou aux Raméens. Elle était d'une extrême simplicité. Je demandais seulement que les prochains changements puissent enrichir la vie de Simone. 28 mai 2201. Cette nuit, un nouveau sifflement a marqué le début d'un spectacle lumineux dans la cuvette australe. Je ne suis pas monté à la surface pour y assister, mais à leur retour, les hommes m'ont déclaré qu'ils n'avaient rencontré aucun des autres habitants de New York. Selon Richard, les phénomènes ont eu la même durée que la fois précédente, mais étaient différents. Pour Michael, le principal changement se rapportait au coloris. Le bleu dominait, alors que deux jours plus tôt, c'était le jaune. Convaincu que les Raméens accordent au chiffre 3 une importance particulière, Richard pense qu'il y aura un autre feu d'artifice. Nous nous attendons qu'un événement exceptionnel se produise sitôt après, et, hormis si cela met en péril la sécurité de Simone, j'ai la ferme intention d'y assister. 30 mai 2201. Notre nef démesurée subit depuis quelques heures une forte accélération, et Richard ne contient plus sa surexcitation. Il est certain que l'hémicylindre sud abrite un système de propulsion qui fonctionne selon des principes dépassant les plus folles spéculations de nos scientifiques. Il lit toutes les données transmises par les sondes externes et copie certaines de ces informations dans son ordinateur portable. De temps en temps, il commente les effets que la manœuvre en cours devrait avoir sur notre trajectoire. Quand Rama a effectué des corrections de cap pour se placer en orbite de collision avec la Terre, j'étais inconsciente au fond d'un puits et n'ai pas ressenti les vibrations qui les ponctuaient. Selon Richard, les secousses actuelles sont plus violentes. Le simple fait de marcher est risqué, comme si un marteau-piqueur était utilisé à seulement quelques mètres de nous. Je serre Simone contre moi depuis le début de la phase d'accélération. Je ne puis la laisser assise sur le sol ou couchée dans son berceau, car les tremblements la terrifient. Lorsque je me déplace avec elle dans les bras, je redouble de prudence, car je crains de perdre l'équilibre et de tomber. Richard a déjà fait deux chutes, tout comme Michael.
Nos meubles, heureusement peu nombreux, se déplacent de tous côtés. Nous avons renoncé à les remettre en place, hormis lorsqu'ils sortent de la pièce. Ce qui s'est passé depuis le début du troisième light show est inimaginable. Richard est allé y assister peu avant la tombée de la nuit et est revenu chercher Michael quelques minutes plus tard. À leur retour, ce dernier était aussi livide qu'un spectre. « Des octopodes !» m'annonça Richard. « Des douzaines se sont regroupées sur le rivage à 2 kilomètres d'ici. »
« Nous ne connaissons pas leur nombre !» rétorqua Michael. « Nous les avons vus moins de 10 secondes avant l'extinction des feux. »
« J'ai pu les observer plus longuement la première fois, » fit remarquer Richard. « Mes jumelles m'ont permis de les voir très distinctement. Au début, ils n'étaient qu'une poignée, puis d'autres sont arrivés. J'allais les dénombrer quand ils se sont placés en formation derrière un octopode géant à la tête striée de rayures rouges et bleues.
« Je n'ai vu ni un géant, ni une formation, » marmonna Michael. « Mais il est exact que ces créatures dotées de tentacules noirs et or sont très nombreuses. » Elles regardent toutes vers le sud, sans doute pour ne pas rater le début du spectacle.
« Il y a aussi des aviens, » me dit Richard, avant de se tourner vers Michael. « Combien en avez-vous dénombré ?»«
25, ou une trentaine. »
Ils ont survolé New York en criant, puis ont filé vers le nord. Ces drôles d'oiseaux ont probablement déjà vécu cela et savent à quoi s'attendre. J'en mitouflais Simone dans des couvertures. « Que fais-tu ?» me demanda Richard. Je lui expliquais que je n'aurais raté le final pour rien au monde et lui rappelais que, selon lui, les octopodes ne sortaient que la nuit de leur antre. Le caractère exceptionnel de la situation a pu les inciter à faire une entorse à leurs principes, rétorqua-t-il à l'instant où le sifflement s'élevait à nouveau. Ce spectacle me parut plus impressionnant que les précédents. Le rouge était la couleur dominante, et je restais bouche bée quand un arc vermillon incandescent dessina un hexagone entre les pointes des 6 petites cornes. Mais ce n'était pas le clou de la soirée. Une demi-heure après le début, Michael s'écria
« Regardez !»
Et il tendit le doigt pour désigner le rivage, là où s'étaient regroupés les octopodes. Des sphères ignées venaient de s'embraser dans le ciel. Elles surplombaient la mer cylindrique d'une 50aine de mètres et illuminaient approximativement 1 kilomètre carré de glace, nous révélant une foule de créatures noires qui partaient vers le sud sur les flots gelés. Richard me tendit ses jumelles. Les feux célestes perdaient de leur intensité, mais j'eus le temps d'observer les octopodes et de voir des motifs colorés orner le crâne d'un grand nombre. Cependant, la plupart étaient gris anthracite, comme celui qui nous avait pourchassés à l'intérieur de leur antre. Mon mari disait vrai, ils étaient très nombreux. Puis, la manœuvre débuta et nous regagnâmes en hâte notre refuge. Demeurer à la surface eût été trop dangereux, car les vibrations lézardaient les tours environnantes dont des fragments pleuvaient sur la chaussée. Ma fille se mit à pleurer dès les premiers tremblements. Une fois dans notre abri, Richard utilisa les caméras externes pour relever la position des étoiles et des planètes, puis effectua des calculs pendant que Michael et moi bercions Simone à tour de rôle. Nous allâmes finalement nous asseoir dans un angle de la salle afin de bénéficier de la stabilité toute relative de deux parois et commenter les événements de cette journée extraordinaire. Une heure plus tard, Richard nous annonça les résultats qu'il venait d'obtenir. Il nous rappela les coordonnées de la trajectoire hyperbolique précédente de Rama par rapport au Soleil, puis nous communiqua les éléments osculateurs, je le cite, de son nouveau parcours. J'avais oublié le sens de ce terme, mais je compris grâce au contexte qu'il résumait les altérations apportées à l'hyperbole au cours des 3 premières heures de manœuvre. Cependant, ce que cela impliquait m'échappait. Michael se souvenait mieux que moi de la mécanique céleste.
« En êtes-vous certain ? »
demanda-t-il aussitôt. « La marge d'erreur est grande en ce qui concerne l'importance de la modification, mais il ne fait aucun doute que nous avons changé de cap. »
« Alors, notre accélération a augmenté ?»«
Absolument. Elle accroît notre vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. »
« C'est sidérant. »
J'avais saisi l'essentiel. Si nous avions encore nourri l'espoir de suivre un circuit qui nous ramènerait un jour sur Terre, nous aurions dû y renoncer. Rama quitterait le système solaire plus tôt que prévu. Pendant que Richard parlait avec lyrisme d'un mode de propulsion capable d'imprimer une accélération pareille à un tel léviathan de l'espace, je donnais le sein à Simone et m'inquiétais une fois de plus pour son avenir. Nous quittions définitivement les parages de la Terre. Remettrai-je un jour les pieds sur une véritable planète? Et Simone, ne connaîtrait-elle que Rama tout au long de son existence? Les vibrations du sol sont toujours aussi violentes, mais c'est en un sens rassurant. Elles indiquent que notre accélération se poursuit, et dès l'instant où nous partons en voyage, autant arriver à destination le plus vite possible.